Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Sortez.
Chaque travail, il est bien vrai, et toujours un peu une corvée qui vous donne du souci, tant mieux, tant pis. Mais chaque ouvrage peut contenir, selon vos voeux, un peu de plaisir. C'est votre désir et de toujours sourire. La vie est moins amère avec un petit morceau de sucre, un petit morceau de sucre, petit morceau de sucre. La vie est moins amère avec un petit morceau de sucre, un petit carré de sucre.
Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes à table avec Bertrand Burgala. Bertrand Burgala qui sifflait le générique de l'émission tout à l'heure. Bertrand Burgala qui est connu comme compositeur de musique, chanteur, mais qui a publié un livre sur un sujet qui le concerne, qui s'appelle « Diabétiquement vôtre », parce que Bertrand Burgala, vous êtes diabétique insulino-dépendant depuis votre 11e anniversaire.
Exact.
Et en ces périodes où on a mangé, où l'on mange beaucoup de sucreries, c'est un sujet qui vous concerne.
Oh ben c'est un sujet qui me concerne, mais qui concerne un peu tout le monde, parce que c'est vrai que le diabète concerne de plus en plus de personnes, directement ou indirectement, et toutes les idées reçues et tous les fantasmes qu'il peut véhiculer.
Alors c'est pour ça que c'est bien d'en parler ensemble dans une émission gastronomique, parce que nous ne faisons pas une émission de santé, ou plutôt de bonne santé, et on est assez content de pouvoir dire qu'on pense aussi à des gens qui ont ce problème, et ils sont de plus en plus nombreux, puisqu'ils sont, on peut dire quelques chiffres d'ailleurs.
Il y a un diabète dit léger qui se répand dans le monde entier, qui touche, selon les estimations, autour de 400 millions de personnes, dont 4 millions en France, et le diabète de type 1, qui est celui qui me touche, qui est une maladie très différente, touche entre 5 et 10% de cette population.
Ça oblige un certain nombre de contraintes depuis tout petit, oui.
Oui, c'est-à-dire que dans le diabète de type 1, le pancréas, il y a une forme de suicide. Cette machine extraordinaire qui fait que quoi qu'on mange, on a un taux de sucre à peu près stable dans le sang, et que les sucres qu'on absorbe sont assimilés par l'organisme. Dans le diabète de type 1, il y a une forme de suicide, les cellules bêta s'autodétruisent, qui fabriquent l'insuline, et donc on ne fabrique plus l'insuline. Mais les diabétiques légers, eux, leur pancréas peine un peu, c'est beaucoup plus proche du cholestérol. Alors que dans le cas du diabète insulino-dépendant, ça implique un traitement quotidien qui est très contraignant. Mais ce qui unit ces deux maladies, c'est d'abord une croyance, c'est qu'un diabétique, et on va revenir un peu, je pense, à la thématique de l'émission, il y a une première idée reçue, c'est qu'on pense qu'un diabétique, c'est quelqu'un qui mange trop de sucre. Et c'est un peu plus subtil que ça. Et puis, il y a une deuxième chose que charrie le diabète, c'est une idée de punition. Et là aussi, je pense que, c'est-à-dire que dans le cas du diabète insulino-dépendant comme le mien, on n'est absolument pour rien dans le déclenchement. Mais si on a des problèmes, si on a du sucre, c'est qu'on sait très mal traité, c'est-à-dire que il faut qu'on ait un fonctionnement, une hygiène de vie absolument parfaite, et on considère notre corps comme une machine parfaite. Donc, si on fait telle dose d'insuline à telle heure, qu'on mange tant de grammes, etc., tout doit bien se passer. Évidemment, ça se passe jamais exactement comme ça. Mais le diabétique, les deux types 2, donc le plus répandu, dans le fait que tout d'un coup leur diabète se déclenche, il y a cette idée qu'ils sont punis pour leur mauvaise hygiène alimentaire. Et bien sûr, ça, c'est pas tout à fait ça.
Comment faut-il vivre cette relation au sucre? Comment faut-il aussi la vivre de façon déculpabilisée?
En écrivant ce livre, je voulais pas du tout raconter ma vie. C'est pas un livre de victime. Je trouve que j'ai trouvé que c'était, il y avait beaucoup de choses à dire sur le diabète, mais qui vont au-delà du diabète. Et je m'étais pas rendu compte, avant d'écrire ce livre, que la propagation du sucre aujourd'hui dans notre société a été vraiment encouragée. Au-delà de ce que j'imaginais non seulement par certains producteurs, les producteurs de sucre, de céréales, mais aussi par les autorités de santé. Et il ne s'agit pas du tout, face à ça, d'être dans une phobie du sucre. Parce qu'en réalité, le sucre, il est dans la nature,
il est partout,
il est dans la plupart des aliments. Même si sa consommation s'est multipliée au cours du XXe siècle, on ne peut pas du tout, il ne faudrait pas, après la phobie du gluten, la phobie de je ne sais quoi, instaurer une nouvelle phobie du sucre. En revanche, il faut considérer qu'il est un peu partout, et peut-être que ce qu'il y a de plus dangereux, c'est qu'on mange énormément de sucre quand on pense ne pas en manger. Je crois qu'on a une idée du sucre aujourd'hui qui est la substance blanche. Et ça n'est pas parce qu'un sucre n'est pas blanc qu'il n'est pas innocent. Donc je pense qu'on a tendance à manger aujourd'hui beaucoup de choses en croyant qu'on ne mange pas de sucre, on se gaffe de glucides en fait.
Je vous propose de faire un petit voyage dans le temps, dans un film de Jacques Rouffio qui s'appelle Le Sucre.
Je simplifie, le sucre, monsieur l'inspecteur, c'est un pari. Un pari sur l'avenir. Aujourd'hui, il est à 2000 la tonne, il y a 8 jours, il est à 1850 dans mes coupes champagne. Vous m'auriez pris un lot. Un lot, c'est 50 tonnes. Vous auriez payé 1850 que multiplie 50 égale 92 500. 92 500. Vous vendriez aujourd'hui, vous empocheriez 2000 que multiplie 50, 100 000. Moins 92 500 égale 7 500. 750 000 anciens en 8 jours, vous me suivez?
Il explique bien, hein?
Ouais. Alors là, je poursuis et j'ajoute. Là, écoutez, monsieur Courtois, j'ai dit, c'est exact. J'ai dit que vous auriez déboursé 92 500. Eh bien, c'est une erreur. C'est faux. J'ai commis une erreur. Vous n'auriez pas sorti 92 500. Même pas la moitié, même pas le quart, mais le dixième. Et pourquoi? Parce que la loi de notre marché, c'est quoi? C'est la confiance.
La loi de notre marché, c'est la confiance, Bertrand Burgala. C'est Roger Karbaoui qui vous le dit.
Oui, c'est Roger Hanin, magnifique.
Hein, donc Roger Hanin avec Jean Carmet en bonne poire et Gérard Depardieu en prête-nom, en escroc. Dans votre livre Diabétiquement Vôtre, vous parlez du monde céréalier comme une société de crime organisé.
Non, c'est pas moi qui dis que c'est un crime organisé, je suis un peu légèrement moins complotiste, mais c'est un vétérinaire très intéressant qui s'appelle Frédéric Hébreau qui à travers... En soignant de plus en plus de chats et de chiens rendus diabétiques par ce qu'on appelle la pet food maintenant, c'est par ces croquettes, s'est rendu compte en fait que effectivement à travers les animaux de compagnie, il s'est rendu compte que c'est toute notre alimentation, celle des humains aussi, qui a été gavée de céréales, que nos modes d'agriculture, l'élevage a été de plus en plus abandonné au profit des cultures céréalières, et depuis les années 60, quand on voit l'expansion effectivement du diabète de type 2 dans le monde entier, elle est toujours la suite de ces nouveaux modes d'alimentation. Et c'est là où on nous recommande de manger des sucres non raffinés, des sucres lents, des sucres complexes. Alors c'est des très jolis mots, mais c'est du sucre. Et on a un organisme qui filtre de la même façon ces sucres-là, contrairement à ce qu'on dit, grosso modo, et puis les sucres industriels. Ce qui fait qu'il y a une forme de justice sociale, d'ailleurs, parce que quelqu'un qui ne mangerait que des sucres qu'il achèterait chez Fauchon, par exemple, risque tout autant d'être diabétique que quelqu'un qui s'alimenterait chez Leader Price. Mais à travers le sucre, il y a quand même une forme de racisme social, et en particulier sur ce diabète de type 2, où on considère que le diabétique, de surplus, c'est quelqu'un qui a un mode de vie trop sédentaire, qui a une mauvaise alimentation, qui regarde trop la télévision, et c'est assez étonnant. Il y a un mépris social pour les diabétiques légers, qui est assez triste, enfin. Et ce diabète-là, c'est un diabète, moi je le considère, dans bien des cas, comme une chance, c'est un peu provocateur, mais comme un appel au secours du corps qui peut être vraiment traité d'une façon très positive. Or, il y a une forme de fatalité, de fatalisme qu'on associe à cette maladie qui fait qu'au lieu d'avoir cette chance d'avoir une alerte, plutôt que de mourir d'un coup, je ne sais pas, d'un infarctus, on a cet appel du corps qui dit « attention, tu te malmènes », et ça peut être traité très positivement, mais dans la plupart des cas, on le traite donc par des médicaments, mais qui empêchent d'avoir souvent le moindre changement de comportement personnel.
Et vous avez réagi de façon plus physique.
Oui, mais les diabétiques comme moi sont doivent affronter autre chose, comme c'est un diabète qui souvient souvent à l'enfance et à l'adolescence. C'est qu'on d'un côté, on a tendance à minimiser la difficulté, la dureté de leur traitement, mais en même temps, on l'a sorti de menace en disant, si tu te traites mal, il va t'arriver des choses horribles, on va te couper les jambes, tu seras aveugle. Et donc, cette promesse en permanence de sanctions fait que les adolescents, souvent, et ça a été mon cas, tous sont pas dans ce cas-là, mais on a une période de transgression plus ou moins longue, de fatigue par rapport à cette maladie, parce qu'on se rend compte que même en faisant des efforts extraordinaires, on a quand même beaucoup de mal à cerner notre glycémie, parce que ce taux de sucre, qui dans le cas des bien portants, entre guillemets, est toujours ajusté d'une façon assez magnifique par l'organisme, chez les diabétiques comme moi, il oscille en permanence. Mais c'est là aussi où on se rend compte que on a un organisme qui est quand même assez génial. C'est-à-dire quand ça marche, vous pouvez manger, vous pouvez réveillonner, et il faut pas du tout se dire je vais pas manger de sucre, parce que de toute façon on en mangera, à moins de boire de se nourrir uniquement d'eau et de salade, et encore sans assaisonnement.
C'est le régime manichéen.
Oui. En dehors de ça, on va manger du sucre, et il faut pas du tout il faut pas faire de phobie par rapport au sucre.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous avez fait, vous?
Ce qui est très intéressant à travers le diabète, c'est que le diabète, dans les deux, le diabète, c'est quelque chose qui... Le sucre est quand même lié au plaisir. Et donc, il y a une forme d'interdiction du plaisir. Puisqu'on s'alimente, dans le cas de mon diabète, on s'alimente en fonction, grosso modo, de son taux de sucre. Si on se traite bien, on va prendre à telle heure, on va prendre quelque chose, où là, on peut pas, on a trop de sucre. Et là, on doit manger du sucre parfois. Par exemple, les diabétiques, ça les rend fous. Parfois, on leur dit, ah, mais tu manges du chocolat, mais je croyais que tu n'avais pas le droit. Mais bien sûr qu'on a le droit, surtout quand on se fait des piqûres d'insuline tout le temps. Mais cette idée de plaisir, elle est très importante. Et il y a une phobie du plaisir à travers le sucre et à travers la peur du sucre. Sugar. Sugar Sugar par les Archies.
Donc ça a été un énorme tube qui nous vend l'amour comme une douceur.
Oui, c'est un épisode assez méconnu de la musique populaire, américaine surtout. C'est ce qu'on a appelé la bubblegum musique. C'est une musique à la fin des années 60 qui a été faite par des producteurs, en particulier un duo de producteurs, Kasnet et Katz, qui trouvaient que la musique rock devenait un peu prétentieuse, pseudo-intellectuelle, et qui voulaient continuer à faire pour les Teeny Boppers une musique légère pour les manèges, pour les autotamponneuses. Et donc, ils ont fait tout un tas de groupes, en général avec les mêmes musiciens derrière, et avec des chansons, donc, ce qu'on appelait bubblegum, parce que ne parlant que de sucre, de miel, de choses, et à travers ça, effectivement, de sexualité. Et c'est une musique importante parce qu'elle a anticipé à la fois le glam rock et presque le punk. Voilà, il y a cette idée de sucre associé au plaisir, au sexe. Et c'est une musique assez étonnante.
Oui, mais ça, c'est en même temps, on peut dire que ça a toujours existé, oui. Cette relation entre le sucre, le sexe.
Mais dans le cas du bubblegum, ça a pris des proportions assez extraordinaires, puisque certains groupes avaient leur propre marque de céréales. The Brady Bunch, un de ces groupes comme ça, avait leur propre marque de céréales, par exemple.
Marque de céréales, ça veut dire aussi des maïs totalement OGM, soufflés, couverts de sucre. Alors là, je reviens sur le sucre ultra raffiné, là, en l'occurrence. Hein. On peut quand même dire que les fibres sont quand même meilleures pour la santé que les produits.
Oui, mais par exemple, ce qui est très drôle, à travers le diabète, on se rend compte, par exemple, dans les croyances aujourd'hui, par exemple, on a tendance à penser que boire un jus de fruits pressé, frais, c'est formidable. Il vaut mieux manger un fruit en réalité, parce que justement les fibres seront absorbées. Mais en revanche, il y a une phobie aujourd'hui des édulcorants, sans aucune raison, puisque jusqu'à maintenant on n'a pas trouvé une victime des édulcorants.
Vous dites si on prend une caisse d'une tonne.
Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui recevrait un conteneur rempli d'édulcorants risque de mourir, ça c'est vrai. Mais en dehors de quelque chose comme ça, on n'a pas pu trouver encore une victime des édulcorants. Mais cette histoire des édulcorants est très intéressante, parce que pour les diabétiques, c'est une forme d'accès au plaisir, justement, puisque on a quand même, c'est très difficile, on doit gérer l'absorption des sucres de façon un peu complexe. Le fait de déjà de pas avoir à mettre de sucre dans son thé ou dans son café, et en même temps d'avoir un goût sucré, c'est génial pour nous. Mais on nous explique, attention, ça donne le goût sucré. Enfin, comme...
Oui, il y a eu toute une campagne sur,
oui, mais les campagnes, d'ailleurs,
sur les produits light, entre guillemets.
Mais c'est très intéressant, parce que autant il y a une vraie escroquerie sur les produits dits sans sucre ajouté. C'est-à-dire que c'est un mensonge, c'est-à-dire qu'on voit des trucs où on met 0,5% de sucre, et puis en réalité, il y a 80% de glucides, donc on joue sur les mots. Mais vous avez des produits effectivement chimiques, light, comme des sodas light, qui n'ont effectivement aucun sucre. Et c'est des produits dont on n'a jamais pu prouver le moindre début de nocivité. On a essayé de faire croire qu'ils provoquaient des cancers. Il y a des sophismes, j'ai eu des études de l'INSERM, absolument hilarantes, qui disent on a remarqué que parmi les consommateurs d'édulcorants, il y avait plus de diabétiques. Oui, pour cause. Donc, conséquence, on en déduit que les édulcorants rendent diabétiques. Donc, avec ce raisonnement, il faut interdire les mouchoirs en papier qui provoquent des rhinites, etc. Mais donc, c'est assez intéressant. Ce principe de précaution appliqué au sucre est assez... Voilà, le sucre génère beaucoup de fantasmes, quand même.
Surtout, c'est vrai qu'on ne dit jamais assez de mal du principe de précaution. les Bertrand Burgala, quand Elvis Presley chantait « My Teddy Bear », on peut continuer à manger des Teddy Bears donc sans craindre.
Mais bien sûr qu'on peut manger des sucreries. Ce qui est intéressant, c'est par exemple, si vous allez dans un restaurant prétentieux, un restaurant snob, en général, il y a des grandes assiettes. Plus elles sont grandes,
et des petites...
plus les portions seront petites.
Absolument.
Qu'est-ce que vous avez mangé ? Vous avez mangé du pain. Donc tous les restaurants un peu chic, aujourd'hui, cuisine, on va revisiter je ne sais quoi, vous mangez du pain. Vous prenez 100 grammes de fraises, il y a 7 grammes de sucre. Vous prenez 100 grammes de pain complet, il y a 54 grammes de sucre. Et vous prenez 100 grammes de pain blanc, il y en a 58. Donc c'est très proche. Donc le sucre est plus dangereux d'une certaine façon quand il avance masqué. Et on peut manger du pain complet si on en a envie. Mais c'est cette croyance aujourd'hui qu'en mangeant des céréales complètes, des choses comme ci, comme ça, alors là c'est très bien. Non, c'est du sucre, c'est pas grave. Dans la plupart des cas, tout ira bien.
Okay. Right. Insulin. And all the other drugs are available in the medical centers. If you need something, for God's sake, don't sit there. You can always come back. We're going to be here.
Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine de sucre avec Alain Crugère. C'était Sweeter Than Sugar par Ohio Express, qui sont les mêmes musiciens, je crois, que les Archies.
John Morris, le producteur de Woodstock, vous l'avez entendu juste avant, et donc il disait que l'insuline et d'autres drogues étaient disponibles, enfin d'autres médicaments étaient disponibles à la pharmacie de Woodstock. On est toujours en 69, hein, aussi bien pour la chanson que pour le concert de Woodstock. Quand vous entendez ça, comment vous réagissez? L'insuline, qu'est-ce que c'est pour vous?
C'est étrange parce que quand on est diabétique, on se pose pas trop la question. Souvent, c'est une des questions qu'on pose à un diabétique insuline dépendant. On dit comment tu fais pour te piquer? Évidemment qu'on se pique. Et c'est vrai que la piqûre est vraiment le moindre des désagréments du diabète parce qu'il y a beaucoup plus de contraintes autour du déséquilibre, justement d'avoir trop de sucre, trop d'insuline. C'est des choses comme ça. Mais l'insuline, c'est une invention assez géniale qui a sauvé la vie de tous les diabétiques dans mon cas. Et son histoire, moi je ne la connaissais pas, parce que comme la plupart des diabétiques, ça m'ennuie. Cette maladie est assez ennuyeuse comme ça. Mais enfin, quand j'ai découvert comme ça, j'ai trouvé assez magnifique ces quatre chercheurs à Toronto qui ont mis ça au point, qui ont réussi à sauver un premier diabétique en 1922 comme ça. Et elle a été ensuite industrialisée par un laboratoire américain. Et c'est là aussi où on voit le rapport, on peut pas être manichéen justement quand on parle d'une maladie comme le diabète, parce qu'elle est depuis le début, elle est très liée dans son traitement à l'industrie pharmaceutique, et l'industrie pharmaceutique est responsable de la plupart des grands progrès qu'il y a eu dans le diabète. Et en même temps, elle est peut-être aussi responsable de certaines des impasses qu'il y a dans la recherche. Mais on peut pas regarder ça uniquement en disant, voilà, cette insuline, elle a été industrialisée grâce aux industriels. Et il n'y a que, d'une certaine façon aujourd'hui, qui ont la possibilité de faire une recherche, de mettre des moyens dans certaines recherches, en réalité. Parce qu'il y a des milliers d'équipes qui cherchent sur le diabète depuis 100 ans, mais il y en a peu qui ont trouvé des choses.
Qu'est-ce que c'est que le freestyle ?
Le freestyle, moi je trouve que c'est une innovation formidable parce que c'est un appareil de mesure de glycémie qui nous évite de nous piquer au bout des doigts. Mais c'est très intéressant parce que depuis que j'ai dit ça, j'ai été attaqué par exemple par un journaliste qui avait lui-même été compromis dans l'affaire du sang contaminé. Déjà parce qu'il attaquait le même laboratoire qui avait mis au point le freestyle, c'est-à-dire on est suspect de trouver qu'on dépense trop d'argent pour le diabète, ce qui est mon cas, et qu'on n'en dépense pas assez pour des choses comme ça qui ne coûtent pas cher et qui pourraient être accessibles à tous les diabétiques de type 1. On devient suspect de collusion avec les laboratoires, et c'est très intéressant. Voilà, c'est une maladie où il n'y a pas de, qui manque de contre-pouvoir, parce que ce que je dis là à travers le freestyle, moi je trouve ça extrêmement blessant, extrêmement grave qu'on m'attaque de ça, parce que c'est comme si on avait attaqué les séropositifs dans les années 80, à la fin des années 80, quand ils se sont battus pour être thérapie. C'est du même ordre. Et or, il n'y a pas ce contre-pouvoir actuellement sur le diabète.
Et parce que c'est une maladie honteuse, le diabète ?
Oui, c'est une maladie honteuse. C'est une maladie honteuse à cause de cette confusion, donc toujours diabète type 2, diabète de type 1, c'est-à-dire qu'on utilise...
Tu es puni parce que tu as trop mangé, tu as trop bu, oui, tu as trop mangé de bonbons.
Et donc, les diabétiques de type 1 sont blessés, qu'on les assimile à la pauvre tata qui a mangé un peu trop de sucreries. Les diabétiques de type 2... Eux, on les assomme en leur disant c'est une maladie terrible, vous allez, il va vous arriver ci, ça et ça. Donc il y a toujours ce côté punitif dans les deux cas. On voit, c'est assez drôle, il y a un grand comédien français qu'on voit parader, par exemple, au Téléthon, qui dit faut s'engager, qui se fait photographier avec des enfants en chaise roulante, mais il est diabétique et il ne veut pas témoigner. Donc ça dit vraiment les fantasmes que suscite cette maladie.
The Candyman, quand c'est Sammy Davis Jr. qui chante The Candyman, ça vous donne envie d'acheter des bonbons ?
Bah, ça me donne envie d'écouter Sammy Davis.
Sweet chocolate malt, candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man because I'm the candy man.
Ooh. Who can take a sunrise? Sprinkle it with you.
À la cantine, est-ce qu'il y a des régimes spéciaux pour...
Non, il y a beaucoup moins de régimes pour les diabétiques que pour plein d'autres formes de, je ne sais pas, d'allergie ou d'interdits religieux. Non, il y a très peu de choses comme ça.
Mais il y a des enfants qui sont interdits de cantine.
Les diabétiques en général s'adaptent, mais on n'imagine pas. 40 ans après moi avoir connu ces choses-là, je n'imaginais pas encore aujourd'hui qu'il y avait autour de cette maladie autant de bêtises, de choses irresponsables. Effectivement, là, par exemple, dans le Nord, il y a une petite fille de 9 ans qui est interdite de cantine parce qu'elle est diabétique. Et c'était le cas. Dans les années 60, un enfant pouvait être renvoyé du lycée parce qu'il était diabétique. Parce qu'on disait, c'est dangereux pour lui s'il fait des hypoglycémies. Mais la situation perdure. Donc, dans le Nord, à Halluin, là, actuellement, il y a une famille qui se bat pour que leur fille soit scolarisée normalement. Ça paraît complètement dingue. Mais j'ai vu, là, il y a pas très longtemps, un documentaire sur des camps de jeunes diabétiques qui sont faits par des bénévoles formidables. Mais on se rend compte du dolorisme qu'il y a encore aujourd'hui. C'est-à-dire, on voit des enfants de 8 ans qu'on oblige à attendre 10 secondes quand ils se piquent pour que la dernière goutte d'insuline pénètre bien dans les tissus, ce qui est une aberration totale, parce que de toute façon, c'est croire que tout est réglé comme ça au millimètre, alors que c'est pas du tout le cas. Mais donc, cet aspect doloriste, lié à la fois au diabète, mais aussi au sucre, je trouve que c'est très intéressant. Et vraiment, cette maladie, et tout ce que suscite le sucre comme ça, je trouve que ça pose des questions qui vont très très au-delà du diabète.
Et alors qu'est-ce que pour vous ça dit sur la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui ?
On est dans une société qui est obsédée par le bonheur, par l'épanouissement et en même temps qui en a peur d'une certaine façon. Et donc l'idée d'un plaisir unilatéral, c'est pour ça que cette histoire des édulcorants pour moi elle est intéressante. Parce que le diabétique... Même quand il se traite bien, on lui dit, vous allez avoir des problèmes. De toute façon, il va vous arriver si, il va vous arriver ça. Il y a cet aspect punitif en permanence. Il y a une forme de phobie, c'est ce que je dis dans le livre, il y a une phobie de la joie. Et le sucre, c'est ce qui symbolise d'une certaine façon. Donc, je suis à la fois effaré par la façon dont le sucre est en train de s'instiller comme ça dans nos sociétés, mais d'une façon très hypocrite, Et je trouve donc que c'est pas le danger n'est beaucoup moins là-dessus, les sucreries qui avancent à visage découvert, mais que cette glucidisation comme ça du monde qu'on fait par le snobisme, par les céréales complètes, par un petit déjeuner d'enfant. Aujourd'hui, c'est 85% de glucides. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En tout cas, il y a beaucoup plus de sucre que ce que les gens imaginent. Donc, je suis plus effaré par le sans sucre ajouté que par le sucre qui annonce sa couleur.
Qu'est-ce que vous diriez à une famille qui découvre que son petit enfant, son petit homme ou sa petite fille est...
Écoutez, ça arrive malheureusement assez souvent et il reste, je pense que pour les proches, il y a une culpabilité, il y a un désarroi parce qu'il y a un manque total d'écoute et aujourd'hui encore autour du diabète. Donc souvent les familles sont isolées, ne savent pas trop quoi faire. Moi je leur dirais que on peut vraiment... Même si malheureusement on ne guérit pas encore de cette maladie, et c'est un mot qu'on prononce rarement, c'est la seule maladie dont on dit toujours qu'on la guérira jamais, comme avec une certitude, ce qui me paraît complètement idiot. On devrait pouvoir la guérir à un moment, mais en tout cas en l'état actuel, quelqu'un dont l'enfant devient diabétique aujourd'hui, il a toutes les chances de surmonter ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même des moyens d'analyse qui ont progressé, et donc on doit pouvoir cerner ça. Il n'aura pas de conséquences graves si on fait les choses intelligemment, et même s'il y a des moments où c'est un peu déréglé, ce qui est normal, c'est à la fois très contraignant, mais on peut surmonter ça. Et les diabétiques légers, alors là, on peut être beaucoup plus conquérant avec le diabète de type 2 et se dire non, on peut le surmonter, c'est pas une fatalité, c'est pas une épidémie, contrairement à ce qu'on dit. Et chaque fois, il y a quelques jours, c'était la journée du diabète, c'est la seule bonne conséquence des horribles...
Mais c'était le 14 novembre.
Oui, c'était le 14 novembre, donc il y aura eu au moins une bonne conséquence, une conséquence heureuse des horribles massacres.
Oui, c'était le lendemain de la journée de la gentillesse.
Oui, ça a foutu en l'air la journée du diabète, ce qui est pas mal parce que c'est une journée de recrutement. C'est-à-dire que c'est toute l'hypocrisie aujourd'hui des campagnes de dépistage du diabète. Les diabétiques de type 1, ils sont dépistés immédiatement puisqu'ils tombent dans les pommes, ils arrivent aux urgences. Les autres, ils sont la plupart du temps dépistés par la médecine du travail, par la médecine scolaire, mais en revanche, on essaye absolument de trouver de nouveaux accédants, comme on dit, au diabète, et donc des prédiabétiques. Donc toute personne de plus de 50 ans qui fait un peu d'excès, on va lui dire qu'elle est prédiabétique. Elle va être considérée comme victime d'une affection de longue durée, remboursée à 100%. Elle va coûter entre 5 et 10 000 euros à la collectivité, alors qu'elle n'avait pas besoin de traitement pour ça. Je trouve que le sucre, c'est un truc génial. On peut le gérer, c'est un peu comme ses économies. Si on aime telle chose, eh ben il faut surtout pas s'en priver. Mais il faut savoir qu'il y en a un peu dans tout. Il faut un peu le gérer et faire attention aux hydrates de carbone, qui sont aussi dangereux que le sucre blanc. Mais ils sont pas dangereux en eux-mêmes. Il faut regarder les emballages. Il faut faire attention quand on vous dit qu'il y a pas de sucre. Il faut être sûr qu'il y en a pas. Et en général, c'est marqué sur les emballages, mais c'est marqué en petit.
Qu'est-ce que vous diriez en dernier mot?
Eh bien, vous savez, en musique, je trouve qu'on peut écouter toutes les musiques possibles, à condition qu'on les aime vraiment. Et je pense qu'on peut manger toutes les choses possibles, à condition de vraiment les aimer. Et si vous avez quoi que ce soit qui vous fait plaisir, il faut le manger, mais si on les aime vraiment. Et c'est pour ça que on a droit à tout. On peut manger de tout, qu'on soit diabétique ou pas. On peut manger les choses qu'on aime. Il faut faire les choses qu'on aime dans la vie. Et je trouve que le diabète, c'est quelque chose qui nous incite à une certaine forme, qui nous oblige à une forme de politesse vis-à-vis de notre corps, mais pas de punition.
Alors, en dessert, une petite chanson d'un diabétique caché et hélas disparu, Francis Blanche.
Il était un petit homme tout habillé de blanc qui courait sur la plage derrière un cerf-volant palpitant, courait sous le ciel, courait follement après son âme d'enfant qui s'envolait, qui s'envolait, qui s'envolait dans le vent.
Faites attention, vous, hein. 3, 4. Tendu la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère, avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son est de Bruno Mourlan, le mixage de Pierre Mine et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et 1000 et une nuits. Vous pouvez la télécharger, la podcaster, faire des confitures. Et dans quelques instants, le journal sur France Culture. Hey, 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 hey.